Pluriel gay.
Eh bien, je suis Gérald et je vous remercie de me rejoindre ce soir une nouvelle fois pour une nouvelle émission sur Pluriel gay. Donc ce soir, c'est une émission qui va être un peu placée sous le signe de Arte. Alors, comme vous le savez peut-être, nos émissions sont podcastées sur le site d'arteradio.com. Et donc, j'ai demandé au site, enfin, aux personnes qui s'occupent du site, s'il était possible de passer à l'émission quelques sons. Parce que sur arteradio.com existent des sons, des reportages extrêmement intéressants sur des thématiques qui nous sont chères, qui sont propres à l'émission, sur les thématiques LGBT. Ils m'ont répondu qu'ils étaient d'accord. Donc, on va ce soir se faire une petite soirée spéciale reportage Arte Radio. Donc, les reportages que vous allez entendre sont donc tous crédités Arte Radio. Vous pouvez aussi les reprendre sur arteradio.com, qui est le site de diffusion radiophonique que je vous invite à découvrir, site auquel on peut accéder aussi par le biais de la chaîne Arte, du site internet de la chaîne de télévision. Bien connu, hein, chaîne de télévision franco-allemande de service public. Une grosse partie des reportages que j'ai trouvés sur Arte, j'ai décidé de vous passer ce soir, une grande partie est plutôt liée donc à la thématique de l'homosexualité au Maghreb, en Égypte, en Iran, l'homosexualité ailleurs. Pas seulement, puisque à la toute fin d'émission, j'ai glissé aussi un reportage réalisé, très intéressant, réalisé à Paris, sur donc de jeunes homos qui vivent dans la rue. Alors, on va commencer par un reportage qui s'intitule « Athée à la menthe marocaine ». Alors, c'est un reportage qui ne parle pas spécifiquement d'homosexualité, mais qui fait parler en tout cas des jeunes marocains qui expriment leur difficulté d'être athées au Maroc. Parmi tous les témoignages, il y a celui d'une jeune femme homo, justement, qui désire s'affranchir un peu des carcans de la religion. C'est un reportage donc qui est signé par Iliam Mahad, qui a donc été fait pour Arte Radio. On l'écoute tout de suite.
La religion dans la loi marocaine, elle est partout. La constitution, elle garantit la liberté de culte, ce qui n'est pas la liberté de conscience. En étant marocain, en étant arabe, ici, vous ne pouvez pas choisir de ne pas être musulman. Vous l'êtes depuis votre naissance dans la loi.
Il y a l'éducation islamique à l'école, donc on apprend un peu de Coran. Et à la maison, ils ne parlent que de religion. Et la religion, c'est la solution de tout, quoi.
C'est sacré pour les Marocains. La religion, c'est sacré. Il ne faut pas y toucher. Tu peux parler de tout ce que tu veux, des choses interdites même par la religion, mais pas remettre la religion en question.
Pour tous les musulmans, il peut sacrifier de sa mère, de son père, de sa sœur pour un dieu. Et pour moi, qui n'existe pas.
En 1956, le Maroc a eu son indépendance. Ça s'est enchaîné dans la violence. Et la religion a été un moyen d'instaurer l'autorité royale une bonne fois pour toutes. Et ça a atteint son paroxysme avec Hassan II.
Moi, écoutez, je suis descendant du prophète, je suis Amil Mouminine. La constitution me donne un pouvoir spirituel qu'elle ne donne pas dans d'autres pays. On ne peut pas être plus musulman qu'on l'est chez nous.
Il avait cette volonté d'avoir un pouvoir religieux sur les Marocains, de sacraliser sa personne. Plus son statut de musulman était important, et plus son pouvoir était grand. Maintenant, il est inconcevable pour un Marocain lambda d'abandonner la monarchie, d'abandonner le statut religieux. Pour la plupart des Marocains, la laïcité n'est pas forcément compatible avec la religion. Tu ne peux pas être musulman et être laïque.
En réalité, les doutes, ça commence dès l'enfance, quoi. Ce qu'il y a... Comment on vit dans une société où il n'y a que de la religion, on essaie de ne pas y réfléchir, quoi. Mais en réalité, les doutes, ils sont là, parce qu'on est des êtres humains. Donc, tu es toujours là, tu te dis, merde, ouais, pourquoi les femmes doivent rester à la maison et moi, j'ai le droit de sortir, pourquoi ça? Tu es amoureux, tu es encore jeune, tu vois que tes parents, toi, ils te laissent sortir, mais tu as envie de voir ta copine, mais elle ne peut pas sortir. Et là, tu commences à te poser des questions, même par rapport à ta sœur. Ah ouais, elle aussi a le droit d'aimer en réalité, parce que moi j'ai aimé une fille, alors ça commence quoi.
Depuis toute petite, je me posais des questions. Pourquoi on faisait ça? Pourquoi on me demandait de faire ça? Pourquoi je devais jeûner? Pourquoi je dois faire ma prière? Pourquoi? Et après, plus je me pose des questions, plus je m'éloigne de la religion.
Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il y avait dans ce Coran de si extraordinaire et de si sacré. Pour moi, il n'y a rien de sacré. En étant enfant, ce qui est sacré, c'est tes jeux, c'est tes amis, c'est ta famille, c'est ta maman. Ce n'est pas un livre que tu ne comprends pas.
J'étais croyante. J'ai souffert, j'ai beaucoup souffert parce que j'étais lesbienne au début. Alors, c'est interdit par le Dieu. Alors, que dois-je faire? J'ai même pas le droit de sentir des sentiments pour une fille parce que le Dieu me contrôle, ils savent tout. Alors, avec le temps, ça m'a aidé. Bon, je suis lesbienne et je fais tout. Je fume, alors c'est interdit par les filles. Je bois et c'est l'alcool interdit. Alors, tout ce que je veux, c'est interdit. Je fais quoi, moi? Alors, je me débarrasse de la religion, ça ne m'intéresse pas. Alors je fais ce que je veux, sans faire mal à personne, c'est tout.
C'est difficile, c'est très difficile, ça prend des années, quoi. On a toujours peur, c'est comme si il y a une caméra qui nous suit partout. On a ça dans le cerveau, le Dieu il est là, quoi. Allah il est là, partout. Dans les années de doute, tu as une double personnalité, mais vraiment une double personnalité, quoi. Tu le vis, mais... À la fin, c'est fini, tu prends une décision finale, quoi.
Déjà, je vous dis que les religions, c'est la création de l'homme. Parce que quand je vois que la religion va un peu dans l'intérêt de l'homme et pas dans la femme, je me dis que c'est un homme qui a créé ça, juste pour avoir, je sais pas, un confort à lui, et pour déranger les femmes, et puis c'est tout. Donc, c'est ça un peu mon argument, je dis... Je dis que c'est la création de l'homme et que voilà. Parce qu'il n'y a aucun avantage pour la femme. J'en trouve jamais. J'ai lu, j'ai fait mes recherches, j'ai écouté d'autres gens qui sont religieux. J'ai essayé de comprendre au début. Mais à chaque fois, je reviens à mes idées, à ce que moi je pense. Et je dis non, je ne vais pas changer, c'est ce que je pense. Et ça va rester le cas pour toujours.
Moi, en étant une femme musulmane, je n'ai pas le droit d'épouser qui je veux, je n'ai pas le droit de divorcer comme je veux, je n'ai pas le droit de mener une certaine vie, de disposer de mon corps comme je le veux. Et toutes ces lois, elles découlent directement de la religion. Tout ce qui est interdit par la religion le sera automatiquement dans le droit et la constitution marocaine. Je vous donne l'exemple de mon contrat de bail. Parce qu'il a été spécifié que je ne pouvais recevoir aucune personne du sexe opposé chez moi et aucune personne qui ne soit pas soit de la famille, soit une fille. Voilà. Et ça, c'est une discrimination énorme.
Un homme athée, donc c'est quelqu'un qui a raté sa vie d'abord, qui vit dans la contradiction, ou bien il reçoit de l'argent de l'étranger, hein, ça c'est connu ça. Ouais, chez nous, un type athée, donc c'est un type qui travaille pour, je sais pas moi, la CIA ou Israël ou les Américains, c'est sûr. C'est un sioniste, il gagne de l'argent derrière ça, sinon il va pas faire ça, c'est impossible. Ou bien, la dernière truc qu'il nous dit souvent, t'as pas bien compris la religion, t'as rien lu.
C'est un peu le vice incarné, c'est la tête à abattre. L'athée. Tu ne peux pas vivre en communauté en étant ouvertement athée, c'est impossible. Par exemple, un musulman qui fait tout ce qui est interdit par sa religion, il sera toujours mieux accepté qu'un athée qui n'est pas dans cet excès-là. Ce sera toujours oui, mais Dieu lui pardonnera parce qu'il est musulman. S'il se repentit, il sera pardonné, mais pour l'athée, non, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a rien qui peut sauver un athée dans une société musulmane.
En fait, dans le cas où tu es un homme, c'est plus facile que les femmes. Parce que même avec les hommes, je peux leur dire « je m'en fous, j'en ai rien à foutre, moi je suis comme ça » et ça passe, il n'y a aucun problème. Mais pour les femmes, non. Ouais, parce que dans notre mentalité, quoi, tu lui dis « une femme athée », ça fait « c'est une pute, c'est une... Ah, bah, on est chez nous ».
Non, principalement, je la garde pour moi. Mes parents, lorsqu'ils savent que je suis athée, ils vont m'outiller ou bien être avec un psychologue ou bien dans un centre de n'importe quoi, des fous.
Déjà, mes parents, ils savent pas que je suis athée. Et ils savent pas que je fais pas le ramadan. Ils savent pas que... Ils savent que je fais pas ma prière. Et je sais pas, dans notre société, on accepte ça. Une personne qui fait pas sa prière, ça, ça passe. Ils se disent, eux, dans leur tête, que peut-être par la suite, je vais changer. À un certain âge, j'ai commencé à être religieuse. Peut-être comme eux, ils étaient au début, que c'est juste une petite période d'adolescence, que je suis juste jeune, que j'y pense pas pour l'instant. Et j'ai pas envie de sentir de pression. J'ai mes études, je me concentre sur ça, je réussis ma vie. Et aussi, je veux qu'ils continuent de me respecter, de voir la personne, je sais pas, leur, la fille innocente un peu.
Ces moutons sont de bonne qualité, mais celui-là, par exemple, coûte 3700 dirhams.
C'est vraiment le ramadan et le Eid Kbir, quand on tue un mouton. J'arrive pas à supporter. Oui, je suis pas végétarien, mais pourquoi des millions de personnes tuent un animal? Pourquoi tous en même temps, dans le même jour, font le même crime? Où est la logique? Où est la logique? Il n'y a pas de logique. On va rester toute la journée sans manger, sans rien faire, pour être proche aux dieux et savoir comment ils sont les pauvres. Ah bon, les pauvres, on sait comment ils sont, mais on doit l'aider, pas ne pas manger pour... Ça me fait rire, vraiment. C'est illogique et...
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Tous les musulmans font des erreurs. Alors les erreurs par les dieux, c'est boire l'alcool, fumer, baiser, avoir une pute, une copine, toucher une fille. Alors c'est, tout ça, c'est interdit. Et tous les musulmans, presque tous, font ça. Alors, je suis pareil. Même si pour eux, je fais quelque chose de plus grave, c'est-à-dire baiser avec une fille ou bien n'importe quoi, ou bien même non croire en Dieu, on fait la même chose. Tout ça, ce sont des choses interdites. Alors, chacun a le choix avec son Dieu.
C'est vrai, le fait de se cacher, ça ne me plaît pas trop. Le fait de ne pas montrer la vraie personne que je suis. Il y a, je sais pas, comme un choc culturel. La rue, tes amis, chez toi, c'est complètement différent. Comme si t'es obligé de mettre un masque à chaque fois, de changer de personnalité. Ça me bloque un peu, ça me perturbe. Il y a un long chemin à faire. Il faut pas laisser tomber, il faut continuer de se battre, d'essayer de changer les choses. Pas de changer les gens, mais au moins que la loi soit de notre côté. Que tous les gens aient leurs droits et se sentent un peu chez eux, parce que là, on ne se sent pas chez nous.
Une personne comme moi, qui vit dans un pays arabe, ne peut pas changer l'équilibre de le monde entier. La seule chose qui peut changer ça, c'est le peuple. Lorsque le peuple arrive à faire face à tout ça, on peut y arriver, mais le peuple même n'est pas intéressé. Moi aussi. J'ai juste de temps à vivre, j'ai une vie à vivre. Alors je dois quitter, j'ai la possibilité de quitter le Maroc. Alors je quitte le Maroc, je vis dans un n'importe autre pays, européen ou bien n'importe où. Et je vis tout tranquille. Pourquoi je vais me casser la tête à faire n'importe quoi, dire non ou bien beaucoup de choses. C'est tout.
Les gens pensent souvent que si vous êtes athée, ça y est, c'est la fête au village, tu fais ce que tu veux, et tout ce qui relève de la morale, vous vous en foutez, alors qu'il y a une nette différence entre ce qui est moral et ce qui est religieux. Par exemple, je ne vais pas tuer quelqu'un juste parce que la religion me l'interdit. Non, je ne vais pas tuer quelqu'un parce que c'est inhumain, parce que juste que c'est inutile. C'est tout.
Et même ceux qui sont dans la religion, en réalité, ils se rapprochent de nous pour le moment. En fait, notre nombre n'arrête pas d'augmenter, du jour au lendemain, quoi. Surtout avec l'arrivée de Daesh, il a ouvert les yeux des musulmans. Et pas juste au Maroc, partout dans le monde arabe. En fait, avec l'arrivée de Daesh et l'application réelle de l'islam, là, on a vu que ça n'a rien à voir avec le 21e siècle, quoi. C'est des choses qui ne sont inacceptables, que le cerveau humain ne pourra pas accepter.
La population n'est pas encore prête à aborder ces questions-là avec une ouverture. Parce que ça reste quand même une société conservatrice, pudique. Moi, ce que je veux faire, c'est m'informer sur ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, et surtout engager le dialogue. Et le dialogue, il va prendre beaucoup de temps.
Pluriel gay. Là, on vient d'entendre donc un reportage d'Arte Radio.com qui est un reportage qui fait partie d'un ensemble de reportages sur l'athéisme donc dans le monde arabo-musulman au Maghreb. Voilà, donc j'avais choisi de placer celui concernant le Maroc dans la mesure où il y avait donc aussi le témoignage d'une jeune femme lesbienne. Je trouvais très intéressant. Nous allons poursuivre maintenant avec la suite des reportages. Donc, ce sont toujours des reportages qu'on peut d'Arte Radio qu'on peut donc retrouver sur le site de arteradio.com. Il s'agit là donc en l'occurrence d'un reportage qui se continue à Paris et à Abu Dhabi. On va rencontrer un jeune Égyptien qui s'appelle Ahmed et qui parle de son coming out. Dans un reportage s'appelle « Je suis gay mais on me soigne » et ce reportage sera suivi par trois extraits d'une série appelée « L'Égyptien libéré », qui sont les chroniques de la vie sexuelle d'un Égyptien d'une quarantaine d'années qui s'appelle Ayman, et j'ai choisi des extraits dans lesquels il parle de la sexualité chez les garçons en Égypte, et puis on terminera avec donc on terminera cette petite série de reportages avant de passer à la fin de l'émission sur un reportage qui lui se déroule en France, donc sur un homo iranien d'une cinquantaine d'années qui a reçu Arte Radio chez lui, qui parle librement de son vécu et de l'ambiguïté aussi du régime iranien sur la question d'homosexualité. On va donc commencer par le reportage qui s'intitule donc « Je suis gay mais on me soigne ».
Donc ça fait 2 jours que je suis à Abu Dhabi maintenant. Là c'est le soir du samedi. Demain, c'est mon premier rendez-vous chez la psychologue. C'est pour la psychologue de savoir si je suis vraiment homosexuel ou pas, afin que mes parents soient rassurés que je le suis pas, parce que bah, sinon je suis un peu dans la merde.
Je m'appelle Ahmed ou Ahmed. J'ai 18 ans, je suis égyptien et c'est ma première année dans une école d'art à Paris. Pendant les vacances de Noël, je suis rentré à Abu Dhabi. Et une fois, je parlais avec ma mère et tout. Et voilà, c'est sorti. Je lui ai dit, écoute, je suis gay, quoi. Elle commençait à pleurer, à me conforter. Après, elle m'engueulait, elle criait. Après, elle commençait à prier. Elle était schizophrène, carrément. Alors, elle est restée à côté de moi et tout, jusqu'à ce que mon père est rentré, parce que mon père, il savait pas. Et juste après, il y a mon père qui rentre dans ma chambre. Il est genre, oui, c'est pas la fin du monde. Moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, peut-être ils ont accepté. Après, il a dit, on va tout faire pour te guérir. Je sais pas que je... Ah, d'accord. Ok.
Donc là, on est dimanche 5. Ma première session est dans 50 minutes. Je commence à vraiment stresser.
Ces séances de psy, c'était pour mes parents d'être sûrs que j'étais pas homosexuel. Même si je leur avais dit que je l'étais, mais après, j'aurais dit oui, en fait, c'est peut-être juste une phase. J'ai un peu mytho et ça a marché, quoi. Donc, ils voulaient juste m'envoyer à la psy pour être sûr que je l'étais pas. J'avais exactement le même sentiment que quand j'allais faire mon bac, quoi. C'était vraiment un examen parce que bon, fallait que je fasse le théâtre un peu comme les oraux qu'on faisait en bac. Elle était pas la psy que j'imaginais, elle était bien comme psy parce que Enfin, elle me disait, enfin, c'est pas une maladie, tu n'as pas à avoir honte, et si tu veux, enfin, de toute façon, la, cette séance, c'est juste entre nous, tu peux tout me dire, je sais pas quoi. Et moi, j'étais genre, oui, je sais. Mais en même temps, je voulais pas risquer de dire que j'étais homo. La deuxième séance, j'étais avec mes parents cette fois, et c'était ma mère qui avait commencé à parler pendant peut-être 15 minutes. Moi, j'ai pas envie que mon fils soit comme ça, nanana, mais la psy après lui a dit, même s'il est très très probablement hétéro, genre, si jamais il se trouve qu'il est homo, il va quand même aimer, il va être aimé, voilà, faut pas que tu stresses pour ça. Et ma mère, elle disait rien parce que elle essayait de comprendre, mais en même temps, c'était... C'est ancré dans son éducation. Et la séance d'après, elle avait dit à mes parents, oui, il est très probablement hétéro. Et ça passait crème, franchement. J'ai bien géré, alors. Alors, d'un côté, ça... Enfin, mes parents, ils étaient rassurés pendant peut-être 3-4 jours que j'étais plus homosexuel. Mais bon, il y a eu un autre problème issu de ces vacances. C'était un problème de la religion. Moi, par exemple, je me suis beaucoup intéressé à la philo. J'avais un prof de philo génial et... Eux, ils n'ont jamais eu d'enseignement philosophique, quoi. Parce que, enfin, dans l'enseignement arabe, avec des dictatures et tout, on apprenait les gens que dalle, enfin, que à connaître par cœur. Donc, ils ne sont jamais sortis de cette sorte de bulle, enfin. Pour eux, il ne faut pas lire ce qui nous écarte de la religion. Surtout qu'ils culpabilisent les livres de m'avoir rendu athée.
Qu'est-ce que ça veut dire?
La had tani mars talat mars haga kda. Bas كمان 10 ايام.
Mes parents, ils m'appelaient plus pour la prière par exemple, et ça me faisait trop bizarre au début parce que je me sentais autre que eux, quoi. Je me sentais pas chez moi. Enfin, plus chez moi.
J'en ai marre d'Abu Dhabi. Donc j'ai commencé à parler avec mes amis un peu pour leur dire comment je suis stressé. Heureusement que j'ai des gens à Paris. Paris me manque, quoi.
Mon père, il m'avait dit oui, tu te rappelles avant que je parte de Paris et tout, je t'avais transmis ma devise, c'était genre, t'oublies jamais de 1, tes études, 2, ta religion et 3, ta santé. Et t'as respecté aucune. Donc pour eux, le contrat, il est plus là, c'est pas admissible. J'ai encore 3 mois à rester à Paris. Ces 3 mois vont être un examen pour moi, selon eux. Enfin, littéralement. Je peux être très vite envoyé à Abu Dhabi. Mais ça se trouve que peut-être l'année prochaine, je serai même pas à Paris.
Arte.
Ça m'inquiète.
Radio.
Mais après, je sais que... Quand j'aurai mon indépendance, je pourrai peut-être leur dire et leur dire en même temps... Si vous voulez pas assumer, voilà, vous avez qu'à renier votre fils.
Comme.
13, 14, 15 ans, je crois que c'est une période où j'étais très actif sexuellement. Mais ok, entre garçons. C'était exclusivement fantasmé sur les filles, pratiqué avec des garçons. Parce que jusqu'à l'âge de 11 ans, on était dans une école mixte, garçons et filles. Et après 11 ans, on était dans des écoles où les garçons étaient séparés des filles. On était comme des chauds lapins. On ne pensait qu'à ça. À la longueur de la journée. Même pendant le cours, pendant l'école, pendant qu'on fait les prières. Tout, c'était le sexe, 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 sexe. Une fois, ils avaient fait un truc qu'ils appelaient le petit train. T'imagines bien c'est quoi le petit train ? Cinq garçons ensemble. Et genre, en fait, pour qu'il n'y aura pas de jaloux, alors le petit train, c'est lui qui est tout à fait derrière, bah, elle change de place, elle devient devant. Comme ça, parce que tout le monde se disait, moi, je serai le dernier dans le train. Comme ça, personne derrière mon dos. Je faisais, non, non, tu changeras de place. Ça tourne, le train. Ah oui, je t'assure que c'était assez impressionnant. C'était nul, parce que t'imagines, 5 ou 6 garçons, on n'arrive jamais à se synchroniser pour faire un petit train-train où tout le monde est content. Il y avait toujours quelqu'un qui n'allait pas bien, qui voulait changer de place, qui bougeait. C'était drôle. Je crois, les mecs qui font des films porno, ils n'ont pas l'esprit aussi ouvert à autant de possessions, autant de choses que nous à cet âge-là. J'aimais beaucoup cette période. Enfin, non. Ouais, j'aimais beaucoup. Il avait beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Pas sur ma nature, parce que ça n'existait pas encore en Égypte. On ne se pose pas des questions sur sa nature.
L'Égyptien libéré.
On se dit, on aime les filles forcément, et les filles c'est impossible, éclatons-nous entre garçons. Il y en avait deux dans notre bande, enfin, j'avais 14 ans, je crois. Et ils étaient très connus, en fait, pour se toucher, pour tout le temps se masturber, se jouer chacun avec le sexe de l'autre, mais c'était très connu, c'est vraiment presque devant nous, quoi, ils le faisaient. Et une fois, ils sont venus me faire une confidence. En fait, chaque jour à l'heure de prière, quand on va prier au mosquée, il y a les toilettes. Mais il y a aussi un parti, tu sais, dans la religion musulmane, avant de faire les prières, il faut se laver. On soulève genre les mains, la bouche, le nez, le visage, le bras, les jambes. On enlève ses chaussures, ses chaussettes. On se lave les pieds parce qu'on prie sans chaussures, sans chaussettes. Il faut pas que ça sent mauvais, quoi. Et donc, il y a un parti comme ça, on va se laver avant les prières. Et eux, ils allaient toujours les derniers, quand tout le monde a déjà fini. Ils allaient à l'intérieur de la salle des prières. Il se cachait dans un coin où il faisait l'amour. Enfin, il faisait l'amour. Il se touchait, quoi. Il faisait. Alors qu'ils sont allés là-bas pour prier. Ah, ils sont super. Et après, mais ils sont venus me dire ça en disant voilà, c'est horrible, quoi. On va brûler en enfer. On a fait l'irréparable. À chaque fois, ils attendent. Ils écoutent l'appel à la prière et le bandent. Non, mais c'est génial.
L'Égyptien libéré.
C'est dommage que les Égyptiens ne veulent pas reconnaître ça. Qu'ils ont fait tellement de cochonneries dans les mosquées que pour eux, c'est vraiment sacré, n'en parlons même pas. Ils l'ignorent, mais on fait beaucoup de choses en fait. C'est exactement comme les églises en Europe. En fait, c'est vraiment différent. La sexualité vue par les Arabes dans le monde arabe n'a rien à voir avec la sexualité en Europe. Et je veux dire, en fait, on pouvait coucher ensemble. C'est-à-dire, moi, je croyais que j'allais coucher avec un de mes potes, mais sans penser qu'on est gay. Enfin, que, bon, on bande sur les filles, bon, en faisant entre garçons le temps que de trouver des filles. Évidemment, ça fait, pour un Européen, c'est hyper bizarre parce que quand je raconte ça à mes amis, ils me disent « Mais en fait, c'est clair que vous êtes gay. » On ne l'est pas. En fait, c'est stupide cette appellation gay, et lesbienne, hétéro, bi. Ça, c'est vraiment européen. C'est complètement européen. C'est pour cadrer les gens. Et c'est ça qui n'existe pas dans le monde arabe. Si, par exemple, deux mecs qui couchent avec plein de filles et pendant une période, il n'y a pas de filles, ils se disent « Écoute, je te prends, tu me prends tout à l'heure. » Et c'est genre « On est hétéro, mec, il n'y a pas de souci. » Tu vois, des histoires des garçons, des mecs mariés avec des enfants qui adorent les femmes, qui baffent sur les femmes et qui n'arrêtent pas de cocher avec des garçons, je peux te raconter des milliards, pas des milliers. Il y a tout un truc pour que les gens me disent sur quelqu'un qu'il est pédé. On avait un mec qui était un chercheur à l'université. Il était très doux, il était vraiment de la classe, il parlait très bien, c'était vraiment de l'intello du quartier. Et tout le monde le traitait de pédé. Alors que, franchement, je n'ai rien vu de sa part qui confirmait ça, quoi. Et nous, on était assez jeunes, moi et mon frère, et il nous invitait tout le temps dans son appartement avec sa mère. Et je m'attendais plusieurs fois qu'il fasse un truc, qu'il nous touche, ou... ça ne me dérangeait pas de toute façon, mais il ne l'a jamais fait. Il était vraiment très net avec nous. Et les gens qui disaient tout le temps qu'il est gay, mais en fait, les gens, quand tu ressembles aux autres, bah, tu fais partie du groupe. Quand tu ne ressembles plus, en fait, les gens commencent à se poser des questions sur toi. Et lui, comme il ne ressemblait pas trop aux gens de quartier, parce que c'était un intello, il vivait toujours chez sa mère jusqu'à quand même son départ aux États-Unis, il n'a jamais dragué une femme, il n'a jamais eu un scandale comme quoi il a essayé de toucher sa voisine. Alors les gens disaient, bah, il est pédé. Parce que tout le monde a eu une petite scandale, une petite bagarre, genre un tel qui a essayé de sauter la femme d'un tel, ou un tel qui a touché le soutien-gorge d'un tel, ou un tel par exemple qui regardait de sa fenêtre et la femme de son voisin à poil. Des trucs comme ça. Ou la femme qui se montrait à poil dans le balcon pour que son voisin le regarde. Il y en avait des histoires sordides dans notre quartier. Et tant que tu fais partie de ces scandales-là, ces problèmes-là, ça va. Tu vraiment, tu es la personne la plus normale du quartier. Tu peux coucher avec tous les mecs. Tu peux vraiment marcher à poil dans la rue. Ça va, tu fais partie du groupe. Mais tant que tu n'es pas dans cette règle-là, tu ne rentres pas dans ces cadres, les gens se posent des questions. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as qui n'est pas normal? C'est quoi qui cloche, c'est toi? Enfin, c'est bien, parce qu'en parlant avec toi, je crois avoir compris pourquoi on traite certaines personnes pédées et certaines d'autres non. Parce que jusqu'aujourd'hui, pratiquement, j'avais toujours pas compris. Je savais que ça n'avait aucun sens, en fait, parce qu'on pouvait être le plus pédé possible et se faire passer pour le plus mec, le plus hétéro, le plus macho. Et être un vrai mec macho et hétéro et passer pour le plus gros PD du quartier.
L'Égyptien libéré.
Il faudra en faire un doctorat là-dessus.
À suivre sur arteradio.com.
Bon, par exemple, moi je vous raconte la situation de le gay en Iran. Tout le monde m'a raconté que, oh, comment ça se fait qu'il y a plein de gays en Iran, et surtout dans les grandes villes de l'Iran. Moi, toujours, j'ai dit que c'est la faute du régime, parce que les mecs iraniens, ça veut dire les garçons, ils n'ont pas le droit de sortir avec les filles. Donc, vous pouvez imaginer, pour quelqu'un à 15 ans, il a besoin d'avoir relation avec une fille, et c'est interdit, c'est qu'on fume l'opium, c'est qu'on fume de l'héroïne. C'est pareil que ça. Et si vous sortez avec une fille, il vous arrête. Il n'y a pas de question qu'il vous arrête dans la rue. Il vous jette en prison. Il vous donne des coups. Bon, alors, le garçon, il peur de sortir avec les filles. Même pour aller au cinéma, même pour traverser un petit peu dans la rue, pour marcher un petit peu, pour faire un tour dans le parc, il s'arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, après deux fois, trois fois arrêté, il préférait de ne pas sortir avec les filles, les mecs. Bon, obligatoirement, il sort avec les garçons. Et moi, à mon avis, de ce que je pense, la première fois que vous avez du sexe avec quelqu'un, ça vraiment dépend de ce que vous essayez la première fois. Bon, si vous essayez, vous êtes un mec de 15 ans, de 14 ans, vous couchez pour la première fois et vous prenez l'orgasme avec un garçon. Bon, ça va rester toujours dans votre tête et vous allez continuer avec les garçons. Comment vous voulez qu'un garçon qui toute sa vie a couché avec les autres garçons, comment il peut avoir l'appétit sur les filles? Malheureusement, c'est quelque chose que le gouvernement iranien, il ne va jamais penser de ça pour le futur des pays. Moi, je m'en fous. Armand et Majid, oui.
Je suis Majid. Je suis le petit ami d'Ahmad.
commencement de révolution, je suis allé en États-Unis. J'étais là-bas pour 22 ans. Après, je suis venu fatigué. J'ai rentré, j'ai retourné en Iran. Bon, je suis là, je suis maintenant tranquille. J'ai mon vie privée, j'ai ma maison et tout. Bon, j'ai mon petit ami qui est là toujours. Il habite avec moi. On est contents ensemble. On ne dérange personne. Et voilà. Pour les autres qui ne sont pas gays génétiquement, mais obligatoirement, ils deviennent gays, c'est pas bien pour la société. Parce que les garçons, peut-être, ils sont normaux, mais lorsqu'ils ne sont jamais avoir d'expérience avec les filles, obligatoirement, après 20 ans, 25 ans, ils deviennent gays. Et parfois, ils se marient. Mais 2 mois, 3 mois ou 6 mois après le mariage, ils se divorcent. Mais ils ne savent pas pourquoi. Bon, bah, moi, je pense que ça, c'est une société malade, si vous voulez, parce que ça ne continue pas les générations. Par les gens qui ne se marient pas, ou s'ils se marient après 3, 4 mois, 6 mois, ils se divorcent, ils ne vont jamais les enfants. Et c'est une expérience qu'ils ne vont jamais répéter une autre fois. Il va rester célibataire, il va choisir un autre mec qui vit avec. Bon, les sociétés, maintenant, c'est comme ça. Mais vous voyez souvent en Iran que les garçons, ils sont main à la main dans la rue, autour des coups de l'autre, sur les épaules de l'autre. Ils s'embrassent librement dans la rue. Il y en a les filles qui sont parées main à la main dans la rue, parce que ça, c'est libre. Les gens, ils sont fatigués. Ils sont exhaustés, vous savez. Ils sont les jeunes. Je ne parle pas seulement sur les jeunes, tout le monde. C'est pas moi qui dis, il y en a les gens qui disent Mother Gender. Le mot la Mother Gender, ça veut dire Motherfucker.
Arte Radio.
Motherfucker, Mola.
.com.
Pluriel gay. Voilà, donc je suis de retour parmi vous après ces reportages. Donc, il s'agissait donc de plusieurs reportages réalisés en Égypte, à Paris et puis aussi en Iran. Le premier reportage qui s'intitulait « Ahmed, je suis gay, mais on me soigne » est un reportage de Sonia Leglen, l'Égyptien libéré. On a eu 3 extraits, qui est une série qui est diffusée par arteradio.com, donc, est une série de reportages donc réalisés par Inès Leroux. Et le dernier reportage que nous avons entendu, qui s'appelle « Gay Iran », était réalisé par Ludovic Piétenu. Pour terminer donc l'émission, le dernier son que je vais passer concerne, alors là c'est un autre sujet, c'est toujours sur une thématique LGBT, mais on va revenir en France, on va revenir à Paris. Il s'agit d'un reportage sur les homos à la rue. Bon, parce que c'est vrai que cette période, il fait très froid, etc., c'est toujours l'occasion de reparler pour les médias, les grands médias, entre 2 reportages sur les routes gelées en Alsace ou les difficultés pour pas tomber sur les trottoirs, pour ne pas déraper sur les trottoirs verglacés dans les grandes villes. C'est aussi l'occasion de reparler du triste sort des personnes donc vivant dans les rues. Et on sait qu'il y en a beaucoup, ce qu'on appelle les SDF. Donc, Arte Radio a réalisé donc un reportage sur des homos dans la rue. Des témoignages donc des jeunes gens, de jeunes homos à la rue qui témoignent. C'est un reportage qui a été réalisé donc pour Arte Radio par Marine Vlahovic, que nous écoutons tout de suite.
Faut savoir qu'il y a tout type, hein. Il y a le bébé de 60 ans, il y a le toxico, il y a les gens qui sont malades, il y a les gens qui sont alcooliques. Un mec comme moi, homo, dans la rue, c'est un peu compliqué, donc faut pas être seul, il y a beaucoup de bagarres, on se fait agresser. Il y a plein de gens qui comprennent pas, donc c'est sûr que les gens qui sont dans la rue déjà à la base sont assez agressifs, assez violents, donc c'est des choses qu'on cache un peu, même s'il y a des fois où j'arrive pas à le cacher vu que je parle peut-être un peu doux ou j'ai des gestes qui font que bon bah c'est ça se voit. Les gens te perçoivent un petit peu bizarre, faut le dire quoi. Il y a encore des gens au jour d'aujourd'hui qui trouvent que l'homosexualité on est bizarre ou qu'on est malade ou des choses comme ça. Stéphane, j'ai 31 ans. Je suis SDF, je suis logé en ce moment par l'association des Restos du Cœur sur un bateau qui s'appelle la Péniche du Cœur. La Péniche, c'était même plus une péniche, pour moi c'était mon chez-moi.
Bonsoir.
Je m'appelle Mickaël, j'ai 22 ans, je suis arrivé à Paris en 2005.
J'ai été à la rue pendant 6 mois. J'avais 19 ans.
Donc aujourd'hui, c'est potage et cuisses de poulet. Cuisses
de poulet ?
Ouais.
En fait, c'est comme si on était un déchet vis-à-vis de la famille, en fait. Qu'en fait, mes parents avaient caché à tout le monde qu'ils m'avaient foutu à la rue. En fait, j'ai fait comme si je connaissais la ville, mais en fait, je la connaissais pas. Par moments, je mangeais pas pendant une journée ou deux, même pour dormir, en fait. C'est comme si on était sur une île déserte et on cherchait à manger, à vivre, à dormir. Après, je suis retourné un an et demi chez ma tante. En fait, mon oncle ne l'apprécie plus. En fait, on a une dispute qui est partie sur les insultes. Et après, quand on se voyait, en fait, il n'avait pas trop apprécié qu'en fait, que j'étais devenu homo. J'avais tout en caché jusqu'à temps que je revienne de Paris. Je faisais des réflexions, on va dire, désobligeantes et puis tout ça. Jusqu'à temps que, au bout d'un an et demi, j'ouvre vraiment les yeux et je dise « Michel, c'est bon, on retourne à Paris, tu refais ta vie là-bas et comme ça tu seras tranquille. » Je me suis retrouvé encore à la rue.
Les journées sont assez longues. Bah, tu te lèves, il est 7h du matin, t'es pas couché avant 1h du matin. En général, tu galères dans le métro, t'attends que les métros ferment, ou des choses comme ça. Tu marches, tu fais que marcher. Donc pour ça, c'est sûr que j'ai des super belles jambes, grave. À la suite de mon coming out, mes parents n'ont pas très très bien réagi à cette situation. On a eu des conversations à table, donc le jour d'un mariage, tout simplement, le mariage de ma cousine. Et bah, ils avaient des propos sur des gens homosexuels et bah, j'ai trouvé que c'était le bon moment d'en parler. Et bah, j'ai quand même tourné ma langue 7 fois dans ma bouche avant de le dire. Et puis je lui ai dit, mais tu sais papa, tu sais pas de quoi tu parles. Moi je fais partie de cette gente, comme tu dis, je suis homosexuel. Après mon père, voilà quoi. Il a dit, me renier quoi, t'es plus mon fils, tu n'es qu'un sodomite. Donc bah, ce qui fait que bah, je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain, donc avec ma petite valise en carton. J'ai pris 2-3 slips, une paire de chaussettes, mon pull, une paire de baskets, et puis voilà, je suis parti. Homo ou pas homo, il faut vraiment, faire attention à qui tu parles, il faut vraiment savoir où tu vas, il faut faire un peu de tri autour de toi, quoi. Le centre d'hébergement, bah, je me suis dit au bout d'un moment, j'en avais marre de dormir dehors, quoi. Dans le froid, j'étais pas propre. Puis moi, je suis quelqu'un qui a toujours été coquet, qui se fringue, qui s'habille, qui prend soin de lui. Donc là, moi, au bout d'un moment, au bout de 2 semaines, j'ai dit bon, allez, stop, là, basta.
Ils nous ont vus vivre. Et en fait, ils savaient ce qu'on était. En fait, ils ne voulaient pas savoir verbalement ce qu'on était vraiment. C'est quand j'étais à la rue, en fait, je lui ai annoncé par téléphone qu'est-ce que j'étais devenu. Mais avant, quand j'étais encore chez mes parents, ma mère le voyait, on dirait que j'étais homo. Elle ne m'a jamais rien dit. En fait, dès que je lui ai annoncé qu'on dirait que j'étais homo au téléphone, en fait, elle a pété les plombs et ça fait... Depuis 2 ans et demi, en fait, qu'on se parle plus. Quand tu te retrouves à la rue et t'es homo, en fait, t'es déjà fragilisé vu que t'es homo. En fait, t'es déjà faible. Dès que tu rencontres quelqu'un à la rue, on te dit, demande t'es homo, en fait. Si tu dis oui, en fait, t'as plein de problèmes qui arrivent derrière. Ils viennent taper, ils viennent te menacer. Encore plus vulnérable qu'une femme, nous, les homos, à la rue. Et vraiment, la première fois que je suis tombé amoureuse d'un mec, c'est à l'âge de 19 ans, quand je me suis retrouvé à la rue. C'était le premier. J'aurais espéré que c'était le dernier, mais ça n'a jamais été le dernier. Il y en a eu plusieurs d'autres. Pour moi, au début, en fait, j'acceptais. En fait, en plus que j'ai vécu sur Paris, même maintenant, en fait... Je vais pas dire que je rejette mon homosexualité, mais en fait, je l'assume plus autant qu'avant. En fait, j'ai envie de devenir normal. Normal, c'est compliqué, on va dire, être hétéro. En fait, depuis le temps que je suis arrivé à Paris, Et depuis que j'assume que je suis homo, en fait, il m'est arrivé... En fait, j'ai couché avec des mecs, en fait, parce qu'on me forçait à coucher avec des mecs, parce que comme ça, je dormais chez eux. Et après, la deuxième fois que je me suis retrouvé à la rue sur Paris, en fait, la première fois, j'étais dans le foyer, précisément. Je me suis fait violer deux fois par mon colocataire de chambre. Et après, la seconde fois, j'ai failli me faire immoler quand j'étais avec des amis à la porte de la Villette. Et, en fait, parce qu'on était trois amis, on était homo, cinq pour ça. Heureusement quand moi et mes amis on a vu que c'était de l'essence qui nous jetait, en fait on a couru tellement vite qu'en fait on n'a pas pu se faire enflammer.
La rue c'est aussi dur pour les homos, aussi dur pour les hétéros, voire beaucoup plus pour les femmes. Du transsexuel... à la prostituée, au clochard, j'ai rencontré pas mal de gens dans la nuit. Et finalement, bon, c'est pas des gens que je reverrai, c'est sûr, mais bah, c'est du fil en aiguille. Tiens, est-ce que je peux, vous pensez que je peux aller là? On m'envoie dans des associations homo. En fait, la rue, c'est un parcours. J'avais pas vraiment d'endroit où je pouvais vraiment me poser mes affaires, pouvoir repasser, être propre, me raser de près ou me coiffer proprement. Donc pour trouver du travail, c'était ça vraiment la galère quoi. Mais quand j'ai trouvé le centre d'hébergement, bah tout de suite, je me suis dit allez, j'ai de quoi me laver proprement, me raser, me changer. Et c'est pour ça que bon bah deux jours après, j'avais du taf quoi. Je suis maître d'hôtel dans un restaurant gastro de luxe. En ce moment, je suis sur une base de 1 500 € sans les pourboires. 1 500, c'est pas mal.
Non, mais c'est bon. Et en plus, t'es en train de t'essuyer les pieds là sur mon pantalon. Tu vas voir, ça, je vais t'essuyer les pieds ou pas. Ouais, t'as raison.
Quand je vais voir des propriétaires, quand je les ai au téléphone, le premier truc qu'on te demande, donc on me demande mon salaire, ils sont OK. Est-ce que vous avez un garant? Non, j'ai pas de garant. Ah, bah sans garant, monsieur, ça va être assez compliqué. Les chambres d'hôtel qu'on propose, c'est des marchands de sommeil. T'as un lit, c'est 700 €. Je préfère rester dans mon centre d'hébergement et mettre de l'argent de côté et puis avoir un super truc après. C'est ce que je fais. J'ai déjà mis pratiquement mes 3 000 € de côté. Mais même 3 000 € de côté, faut savoir qu'on ne prend pas.
Si tu veux rester, il faut trouver un travail. En fait, moi, au début, quand j'y étais, j'étais pas trop attiré par le milieu du travail, mais je suis employé de libre-service dans un Shopee. En fait, je gagne à peu près 1 000 € par mois, que je dépense aussitôt, mais faut que je, là, ce mois-ci et dans les mois qui viennent, il faut que je garde un peu d'argent pour rembourser les dettes que j'ai accumulées quand j'étais à la rue. Pour le dernier emploi que, là, que j'ai, je me suis pas caché, mais j'ai fait tout pour être une autre personne. Et en étant une personne, j'ai réussi à être embauché. Et moi, je reviens à la vraie personne. Que je suis en fait.
J'ai la vie du SDF et la vie du mec du travail où les gens ils me regardent et qui penseraient pas du tout un seul instant que je serais dehors quoi. Parce que je le laisse pas paraître, je suis toujours clean, toujours bien rasé, toujours coiffé. Et quand je suis au centre d'hébergement, bah c'est le contraste, bah je vois les personnes en difficulté alors que moi je sers des gens qui sont hyper, hyper classe, hyper chic. Et que quand j'arrive dans le bateau, je vois des gens qui n'ont pas une thune. Et c'est bien finalement de connaître les deux parce que tu vois la différence de la vie sociale quoi. Tu vois les gens qui galèrent dans la vie et tu vois les gens qui c'est la vie de toute façon. Il y a toujours quelqu'un qui a eu plus que l'autre. Vous voyez, c'est ça quoi.
Arte Radio.
Je vais servir une femme d'un certain standing et puis le lendemain je vais boire mon café avec quelqu'un qui a pas une thune, qui a plus de dents. Ben moi, je suis content quand même de connaître un peu ça.
Pluriel, 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 pluriel.
Yeah. Voilà, l'émission touche à sa fin. Donc, pour terminer, sur une petite note musicale, je pensais que je pouvais vous faire écouter, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un chanteur donc de raï, un chanteur algérien, qui, en dépit d'une homosexualité revendiquée, ses chansons évoquent régulièrement, sans détour, l'amour ou la sexualité homosexuelle, a réussi à se hisser au sommet des charts en Algérie et à prendre sa place donc dans les dans le au sein de la scène raï algérienne. Il s'appelle Cheb Abdou et on va écouter un titre qui s'appelle Madre Madre, un titre que je qualifierais un peu d'arabo-andalou, qui a été son premier grand succès en 1997, qui lui a permis d'être connu en Algérie. Et puis bon, Cheb Abdou ensuite a eu une longue carrière de chanteur qu'il continue actuellement, se produit sur des grandes scènes raï en Algérie. Et tout ceci en dépit du fait que, je le répète, Cheb Abdou est ouvertement gay. On va donc écouter un titre qui s'appelle Madre Madre, le titre qu'il a fait connaître en Algérie, son premier grand succès en Algérie en 1997. Et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine. We'll be right back.
I will live on.